Europe 1.
Europe 1, Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de finir la semaine avec vous et avec Culture Média. Au menu, tous les médias et toutes les formes de culture. Aujourd'hui, par exemple, de la BD et de la gastronomie, mais également du violoncelle, des fichiers MP3 et des fichiers ADN. La bande des quatre sera là. Bruno Donnet pour ses télescopages, Lisa-Marie Marquez et son portrait, Marc-Antoine Lebray et ses voix, et Héloïse Goy pour le journal des médias et les audiences. Question, ou plutôt position, prenez un événement d'actualité et demandez-vous, les choses se sont-elles passées telles que la presse vous l'a raconté? Eh bien, c'est la question que pose depuis 35 ans le fameux baromètre de la Croix. Il sort aujourd'hui et ses résultats font froid dans le dos, car les Français se désintéressent de plus en plus de l'actu, avec une chute vertigineuse chez les jeunes. Précision, le média jugé le plus crédible reste encore la radio. Ce sera notre info média du jour. Nos invités, le professeur de criminologie Alain Bauer. Il est également à la télévision dans la nouvelle émission de Cold Case de France 2, Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait. Et il revient pour nous sur l'affaire du grêlé, le tueur en série identifié 35 ans après. Et vous savez quoi? Il n'était pas grêlé. Enfin, les prodiges de la musique classique, les sœurs Camille et Julie Berthollet, pour leur nouvel album après deux disques d'or, ça s'appelle Série. Elles ont rejoué les thèmes de leur série préférée. Ça va de Game of Thrones à Benny Hill. Je vous avais prévenu, toutes les formes de culture. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Héloïse Goy.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Au sommaire de votre journal des médias.
La papesse de la télé-réalité française lance son émission politique sur YouTube. Les Européens inquiets de leur empreinte numérique. Et puis Jean-Pierre Elkabbach nous fera remonter le temps avec un reportage tourné en Inde il y a près de 50 ans.
Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier.
En tête, TF1 avec un lancement plutôt moyen pour la série Une si longue nuit, la série policière avec Mathilde Seigny et Jean-Pierre Darroussin. 3 530 000 téléspectateurs, soit 16,8% de part d'audience. Derrière, en deuxième place, France 3. Un joli score pour le film Un long dimanche de fiançailles qui était diffusé en hommage à Gaspard Ulliel. 2 540 000 téléspectateurs, c'est 13,4% du public devant sa télévision. Et puis M6 en chute libre avec sa série Why Women Kill. C'était déjà un niveau faible la semaine dernière. Et hier soir, ils étaient 1 750 000 téléspectateurs devant cette série.
Culture Média.
On ouvre ce journal des médias avec une star de l'influence et de la télé-réalité qui lance son émission politique.
Eh oui, elle s'appelle Magali Berda. Alors son nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est pourtant la papesse de la télé-réalité en France. Elle est notamment l'agent de Nabila. Elle est aussi la créatrice et la directrice de Shona Events, l'agence la plus puissante d'influenceurs en France. Avec près d'1 million d'abonnés sur Instagram et des vidéos qui cumulent des centaines de milliers de vues sur YouTube, Magali Berda débarque là où ses abonnés ne l'attendaient pas forcément, l'interview politique. L'influenceuse va lancer dimanche sa propre émission sur YouTube. Parmi ses objectifs, partir à la rencontre de tous les candidats à l'élection présidentielle de 2022. Magali Berda raconte à notre micro pourquoi elle a souhaité réaliser cette série d'interviews politiques.
Comme je ne comprends rien à la politique, je veux vulgariser la politique et je veux vraiment qu'elle soit accessible à tous, notamment aux gens comme moi, pour après prendre la bonne décision et savoir pour qui je vais voter. L'objectif de faire ces vidéos, c'est vraiment d'emmener avec moi les gens dans une démarche citoyenne. Vous verrez peut-être les hommes politiques d'une manière différente.
Pour cette émission, Magali Berda suivra donc chaque candidat pendant une journée, tout en lui posant des questions qu'elle qualifie elle-même de neutres et d'accessibles. Lors de cette journée, elle interrogera aussi les partisans et l'entourage du candidat. Une émission qui présentera, selon elle, un intérêt très important pour les candidats.
Les gens se rendent compte que on a une force de communication qui est juste énorme. C'est vraiment aujourd'hui pour moi les réseaux sociaux qui ont la plus grande force de com. Quand on veut être président de la République, on doit être le président de tout le monde et pas le président que de ceux qui ont l'intelligence ou la capacité à comprendre un discours politique. Je pense que nous, on est des citoyens comme les autres et qu'on a aussi besoin de comprendre. Et c'est ce que j'ai expliqué aux différents chargés de com quand je les ai contactés, qui a été plutôt bien pris puisque j'ai eu pas mal d'accords. Et donc vous verrez, je vais essayer de vraiment tous les faire.
Pour le premier épisode, c'est avec Éric Zemmour que l'influenceuse a décidé de lancer son programme. Voici un extrait de cette interview en exclusivité pour Culture Média. Le candidat lui répond à une question que beaucoup de ses abonnés se posent. Il est question de racisme.
On dit souvent que vous êtes raciste. Des gens disent ça. Vous avez envie de leur dire quoi?
Vous êtes dans le plus beau pays du monde. Avec un pays qui n'est, avec un peuple qui est sans doute le moins raciste de la Terre. Parce que justement, il accepte tout le monde, quelle que soit son origine. La seule exigence qu'il ait, c'est devenez comme nous, vivez comme nous. Donc vivez comme des Français.
L'intégralité de cette interview sera diffusée dimanche à 10h sur le compte YouTube de Magali Berda.
On continue avec une information qui concerne le numérique. La plupart, pour pas dire la grande majorité des Européens, sont inquiets des traces qu'ils laissent sur Internet.
Alors 79% des Français aimeraient effacer définitivement des contenus postés sur leurs réseaux sociaux. C'est une étude de Kaspersky, un site qui propose des solutions de cybersécurité. Et pour cette étude, Kaspersky a interrogé plus de 8500 personnes de plus de 16 ans dans 11 pays européens. Et c'est la génération Z qui est la plus concernée par ce sujet. 86% des jeunes nés entre 1997 et 2010 aimeraient avoir une baguette magique capable d'effacer des photos ou des propos embarrassants. Une baguette magique qui ne fait rêver que, et c'est déjà pas mal, 70% des plus de 35 ans. Ces chiffres s'expliquent en partie par les conséquences néfastes que peuvent avoir certaines publications pour le monde du travail. 30% des sondés admettent que des propos ou des photos postées sur les réseaux sociaux ont déjà nui à leur carrière. Parmi les publications les plus embarrassantes, 46% des Français estiment que les messages désobligeants à l'égard des personnes handicapées sont les plus préjudiciables pour leurs relations personnelles et leurs perspectives d'emploi. Et puis un autre chiffre étonnant révélé par cette étude, 38% des Européens manifestent plus d'inquiétude que de tranquillité à l'idée de laisser leurs identifiants de connexion dans leur testament. Autrement dit, 38% des citoyens craignent la survie de leurs réseaux sociaux après leur mort.
Dans l'actualité des médias également, The Voice, l'émission qui annonce des nouveautés pour sa prochaine saison.
Et oui, la fin de l'étape des KO, l'arrivée des Supercross Battle et un rôle secret, mais tout de même dévoilé, pour Nolwenn Leroy. La production de The Voice a dévoilé hier les nouvelles règles de cette 11e saison qui sera bientôt diffusée sur TF1. Alors le jury, lui, ne change pas. Il sera toujours composé d'Amel Bent, de Florent Pagny, de Marc Lavoine et de Vianney. L'arrivée de Nolwenn Leroy dans l'émission avait déjà été annoncée en décembre, mais on sait désormais précisément quel sera le rôle de la chanteuse. Repêcher en secret quatre candidats qui n'ont pas été retenus par le reste du jury pendant les auditions à l'aveugle. Ces quatre candidats sauvés in extremis seront coachés en deux duels par Nolwenn Leroy, toujours en secret, c'est-à-dire dans le dos du jury. Et la chanteuse désignera elle-même les deux gagnants de ces battles, des gagnants qui, surprise, pourront réintégrer l'aventure auprès des quatre coachs. Parmi les autres nouveautés, la fin de l'épreuve des KO dans laquelle les coachs devaient éliminer l'un de leurs talents. Ces KO laissent donc la place aux Cross Battles et aux Super Cross Battles, une nouvelle étape qui donnera lieu à un épisode spécial. Le public pourra départager les chouchous des coachs. Les candidats seront élus pour accéder directement aux demi-finales. Alors pas encore de date dévoilée, mais cette nouvelle saison de The Voice devrait commencer très prochainement sur TF1.
Et on termine ce journal des médias en remontant le temps. LCP, la chaîne parlementaire, diffuse un reportage de Jean-Pierre El Kabbach, tourné il y a près de 50 ans.
Eh oui, et ce sera diffusé, ou plutôt rediffusé du coup, dans l'émission Rembobina, présentée par Patrick Cohen. Ce reportage, diffusé pour la première fois en février 1973 dans le magazine Actuel 2, sur la deuxième chaîne de l'ORTF, nous emmène à Auroville. Auroville, c'est une cité née en Inde en 1968 et qui a vu pour ambition de créer une société harmonieuse, sans argent, sans loi et donc sans inégalité. À l'époque où il décide de partir faire ce reportage, Jean-Pierre El Kabbach a 36 ans et le journaliste explique ce qui l'avait motivé pour partir à la découverte de cette nouvelle cité d'Auroville avec Nicole Avril, cette écrivaine qui deviendra sa femme.
D'abord, je n'ai pas le mérite de la découverte. Elle revient à l'écrivain Nicole Avril. C'était au fond notre première rencontre et le premier voyage ensemble. Elle avait connu, elle, l'architecte français qui croyait à Auroville avec une passion qui était presque mystique. Et Nicole Avril nous avait convaincus qu'il fallait nous intéresser à cette ville qui se présentait une ville de l'harmonie, de la liberté, de la réconciliation des êtres.
Sur place, Jean-Pierre El Kabbach observe pendant 3 semaines le fonctionnement de cette ville fascinante et mystérieuse qui, à cette époque, est à peine sortie du sol. Il nous raconte ce qui l'a le plus marqué lors du tournage.
Ce qui nous avait frappé, c'était le début de quelque chose sur place, la passion, le fait que vous voyiez travailler des jeunes qui venaient de Palestine ou d'Israël et qui travaillaient ensemble. Des gens qui venaient de toute l'Europe avec la conviction qu'ils allaient dépasser la vie quotidienne, la vie ordinaire, banale, et qu'ils avaient trouvé un sens à leur vie. Et c'est ça qui reste vivant, auquel je pense souvent, et que j'ai retrouvé avec une certaine émotion, et Nicole Avril aussi avec moi, quand nous avons revu si longtemps après ce documentaire.
Cette rediffusion 50 ans plus tard est d'autant plus intéressante qu'aujourd'hui, Auroville existe toujours. Alors, la ville a bien changé, hein, elle s'étend désormais sur 2000 hectares. Des centaines de milliers d'arbres y ont poussé. La cité utopiste est toujours régie par ses propres lois et elle compte aujourd'hui plus de 3000 habitants issus des quatre coins du monde. Pour voir ce reportage passionnant sur les débuts d'Auroville, ça se passe dimanche à 21h sur la chaîne parlementaire.
LCP, le canal 13 de la TNT. Merci beaucoup Héloïse Goy. Ces infos à retrouver avec les autres sur notre newsletter média. C'est gratuit, c'est sur europe1.fr. À lundi Héloïse pour un nouveau journal des médias. Bon week-end. Dans un instant sur Europe, notre info média du jour avec le 35e baromètre des médias, journal La Croix et de l'Institut Kantar Public One Point. Jugez-vous que les événements se sont bien passés tels qu'ils vous ont été racontés dans les médias? Parfois la réponse fait peur, on en parle dans quelques instants.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média,
Philippe Vandel.
C'est un rendez-vous attendu depuis 35 ans. Chaque année, le journal La Croix publie son fameux baromètre de la confiance des Français envers les médias. Baromètre réalisé en collaboration avec l'Institut Kantar Public One Point. Une bonne manière de prendre le pouls des Français sur leur rapport aux médias à l'ère de la défiance et du complotisme. Alors question, qu'attendent les Français des médias à l'aube de la présidentielle? Quel est leur rapport à l'actualité? Comment s'informent-ils? Et surtout, ont-ils confiance? Je spoil un peu, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Bonjour Gauthier Vaillant.
Bonjour.
Vous êtes journaliste politique pour le journal La Croix, le quotidien. Les médias sont un sujet politique?
Oui, évidemment, les médias sont un sujet politique. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que cette année, on a décidé de donner une tonalité un peu plus politique à ce baromètre. À l'approche des élections, en interrogeant largement le panel sur leur opinion sur le rôle des médias dans la démocratie et leurs attentes en matière de traitement justement de cette élection présidentielle.
Alors votre baromètre, c'est ce qu'on attend tous les ans, ce qu'on appelle un marronnier, mais là c'est positif, c'est pas la fameuse question sur la galette ou le poids des cartables. On attend ce baromètre de La Croix et l'indicateur le plus attendu, c'est cette question que vous posez aux Français depuis 35 ans, les choses se sont-elles passées? Comment vous la racontez dans tel ou tel média? La radio est toujours en tête, je le dis parce qu'on est à la radio, avec 49%, mais on observe toutefois une chute de 3 points. La radio, égalité avec la presse écrite qui gagne 1 point. Ensuite, la télévision gagne 2 points à 44%. Et enfin, avec seulement 24% de confiance, une chute de 4 points, Internet. Est-ce que ces mouvements s'expliquent ou est-ce que ce sont les variations coutumières d'une année sur l'autre? Ou est-ce que vous voyez là une tendance de fond?
L'élément le plus important dans ce que vous avez cité, c'est la chute de la confiance envers Internet, naturellement. Effectivement, vous l'avez dit, les autres variations sont un peu moins significatives. La presse écrite gagne 1%, la radio en perd 3%. C'est des choses qui peuvent se corriger d'une année sur l'autre. En revanche, sur Internet, effectivement, Internet retrouve vraiment un niveau de défiance qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs années. Et ça s'explique. Vous parliez de complotisme tout à l'heure. On a beaucoup parlé depuis le début de cette pandémie des fausses informations, du fait que voilà, Internet était vraiment le lieu où circulait un certain nombre de fausses infos, de fausses rumeurs. Et je pense que ce message, et ces sujets ont fini par atteindre l'opinion.
Mais en fait, à rebours, est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle que les gens aient de moins en moins confiance dans un média qui est justement celui qui véhicule les fausses informations?
C'est une bonne nouvelle, à ceci près que ça reste une source d'information très importante, en particulier chez les jeunes. C'est la première source d'information des moins de 35 ans. Et donc effectivement, on a là une difficulté, presque une contradiction avec des gens qui sont à la fois très méfiants envers Internet, mais comme c'est dans l'air du temps que tout le monde utilise Internet, que tout le monde utilise les réseaux sociaux, c'est gratuit, et bien ça reste une source d'information qui est très utilisée. Donc c'est une bonne nouvelle que la conscience progresse de la difficulté qu'il y a à trouver une information de qualité sur Internet. Maintenant, c'est une moins bonne nouvelle quand on sait que ça n'empêche pas les gens de s'y référer.
Alors, après la bonne nouvelle, une mauvaise. Jamais écrivez-vous ce matin dans les colonnes de votre journal, vous, un édito, en tout cas, dans La Croix, on peut lire ceci. Jamais l'intérêt pour l'actualité et la confiance envers les médias n'ont été aussi faibles à la veille d'une présidentielle. Que se passe-t-il?
Bien, on est à la veille d'une présidentielle, mais on est surtout au terme de quasiment 2 ans d'épidémie de Covid. Et je pense que l'actualité, la baisse de l'intérêt pour l'actualité est sans doute liée à ça. Il y a une lassitude vis-à-vis de cette pandémie qui a de manière assez inévitable, on va dire, saturer l'actualité. Et donc, la lassitude s'explique aussi par ça. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va réussir à rebondir en termes d'intérêt, notamment avec cette campagne électorale qui, aujourd'hui, a encore un peu de mal à décoller parce que la pandémie continue un peu de tout étouffer. Mais je pense que, voilà, il y a le côté veille de présidentielle, il y a surtout le côté deux ans de pandémie.
Gauthier Vaillant, vous avez rajouté une deuxième mauvaise nouvelle à ma première mauvaise nouvelle. Je disais, après l'avoir lu chez vous, que la confiance envers les médias n'ont jamais été aussi faible. Et aussi, indicateur inquiétant que vous relevez, il y a la confiance, mais également l'intérêt qu'on y porte. Parce qu'on peut porter de l'intérêt à quelque chose en quoi on n'a pas confiance. Mais là, les deux baissent. L'intérêt porté par les Français à l'actualité passe de 67 à 62 %, une chute de 5 points. On va voir après que chez les jeunes, c'est encore pire. Là encore, il y a le Covid, il y avait aussi peut-être la faim, les remugles des gilets jaunes qui avaient largement affecté la confiance envers les médias officiels.
Oui, bien sûr, c'est vrai que le Covid est arrivé, vous avez raison, sur... dans un contexte qui était déjà défavorable à la confiance envers les médias. On a vu que cette pandémie a été l'occasion de débats infinis, de rumeurs, d'informations d'ordre et de contre-ordre. Il faut savoir aussi que la confiance envers les médias, j'allais dire, en tant que journaliste, en tant que média, on se sent les premiers concernés. Elle est aussi le reflet de la confiance ou de la défiance envers d'autres discours publics, celui des politiques, celui des experts de santé, etc. Et donc, en fait, dans l'expression confiance envers les médias, on retrouve aussi le reflet de l'ensemble de la parole publique qui s'exprime à travers nous.
Et puis, beaucoup plus grave, l'un des chiffres les plus alarmants de ce baromètre, c'est l'intérêt porté par les 18-24 ans à l'actualité, donc les jeunes. Ils étaient encore 51% l'an dernier, c'est facile à voir, c'est plus que la majorité. Ils ne sont désormais plus que 38% en 2022 à s'intéresser à l'actu, une chute de 13%. Comment vous expliquez ce décrochage chez les jeunes? On disait qu'ils étaient au contraire de plus en plus conscientisés, ou alors je me trompe complètement, ou alors tous les repères ont volé en éclats.
Bah, peut-être que quand on dit que la jeune génération est très conscientisés, par exemple, sur l'écologie, etc. On a envie d'y croire, on a envie de positiver, et surtout, on prend des exemples qui sont réels, et on a tendance à vouloir élargir à toute une génération, un peu par effet de loupe, la mobilisation de ce qui n'est en fait qu'une partie de cette génération. Maintenant, l'intérêt des jeunes envers les médias, il est effectivement en chute. Là encore, il y a un effet de contexte. Il y a aussi une question qui n'est pas résolue, dont on parle depuis des années, qui est celle de l'éducation aux médias, l'éducation à l'information. Aujourd'hui, dans les pratiques de la jeunesse, effectivement, l'information, la fréquentation des médias traditionnels ne va évidemment plus de soi. Et ça recoupe un certain nombre de choses qu'on a déjà dites. Quand vous avez une jeune génération qui est énormément sur les réseaux sociaux, énormément sur Internet, et qui savent aussi que ça n'est pas toujours un canal fiable pour s'informer, ça engendre, tout simplement, plutôt que de se reporter vers la radio, la télévision, la presse écrite, c'est juste un désintérêt pour l'actualité qui s'exprime.
Et puis, autre élément de contexte, en cette année 2022, évidemment, vous y faites énormément allusion, il y a même des questions spécifiques, c'est la présidentielle. On marque une pause, on continue d'en parler. Nous sommes avec Gauthier Vaillant, journaliste politique à La Croix.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Le 35e baromètre de confiance envers les médias de La Croix. Nous sommes avec le journaliste politique à La Croix, justement, Gauthier Vaillant, pour en parler. On va aussi balayer devant notre porte. Est-ce que nous, médias, votre baromètre montre que la confiance envers les médias s'érode, et notamment chez les jeunes, et notamment aussi l'intérêt qu'ils leur portent. Est-ce que nous, médias, ne doit-on pas balayer devant notre porte?
Est-ce que les médias sont exemplaires 100% du temps? Non. On a vu des exemples très récents, la polémique autour de l'interview de Jean-Michel Blanquer dans Le Parisien, dans lequel il annonçait le nouveau protocole sanitaire pour les écoles. On a appris que cette interview avait été réalisée depuis Ibiza. Il y a eu une polémique parce que la photo choisie par Le Parisien le montrait dans son bureau, donc ça pouvait induire en erreur. Suivie d'une nouvelle polémique, puisque Anna Cabana, qui est journaliste et qui est l'épouse de Jean-Michel Blanquer, a animé dans la foulée sur une chaîne de télévision un débat sur cette même polémique. Donc ça, c'est des exemples récents qui montrent qu'effectivement, non, on n'est pas exemplaire, et Le problème.
Juste un mot, pardonnez-moi, ouais. Je vous interromps. Ce qui a posé problème, c'est non pas qu'elle anime un débat sur ce sujet, c'était sur I24 News, c'est qu'elle a animé ce débat sans dire qu'elle était à la ville l'épouse du ministre dont elle débattait.
Absolument. Et ça, évidemment, ça ne passe pas inaperçu. Et le drame, mais qui pour nous, médias, est un appel à l'exigence et à l'exemplarité à tout moment, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, chacune de ces petites séquences de ces erreurs, même si elles ne sont pas représentatives de la qualité du travail d'un média et encore moins de l'ensemble des médias, eh ben, ça tourne, ça fait un effet de loupe et ça amène de l'eau au moulin de ceux qui pensent qu'effectivement on ne peut pas faire confiance dans les médias. Et une petite séquence comme ça est désastreuse pour l'ensemble de la presse et des médias et vient surtout occulter peut-être les 90, 95, 98% de bon travail qu'on peut faire le reste du temps. Donc pour nous, c'est vraiment effectivement un appel à être exemplaire. On n'a pas le droit à l'erreur aujourd'hui.
35e baromètre, je l'ai dit, sur la confiance des Français envers les médias. Forcément, cette année, il y a des questions qui sont plus axées sur la présidentielle. Pourquoi faire un focus sur celle-ci? Je vais vous dire le sens de la question. Est-ce que la confiance envers les médias est différente selon qu'il y ait ou non une présidentielle?
Eh bien, la présidentielle, c'est le grand rendez-vous de la démocratie française. Et par définition, les médias jouent un rôle absolument majeur dans le déroulement de cette élection, parce que c'est à travers les médias
que... Bien sûr,
que
mais est-ce qu'ils jouent un rôle majeur sur la confiance envers eux?
Oui, parce que c'est forcément un moment, une période où le public va davantage fréquenter les médias. Parce que c'est comme ça que c'est comme ça qu'on va s'informer, c'est comme ça qu'on va savoir ce que disent les candidats, ce que proposent les uns les autres et voir comment ils s'affrontent. Donc c'est un rendez-vous que les médias ne peuvent pas manquer en termes de confiance.
Alors vous avez soumis plusieurs attentes envers les médias concernant cette campagne et voici les trois attentes les plus fortes. 1, 87% de oui qu'ils permettent aux candidats de présenter leur programme et leur vision pour la France. 83% de oui qu'ils pointent du doigt les fausses informations diffusé par les candidats, 79% qu'ils donnent les bonnes informations pour faire votre choix. Là, c'est plutôt positif, les attentes.
Oui, c'est très positif. En fait, ce qu'on constate, et on le constate aussi dans une autre partie du baromètre sur le rôle des médias, les attentes en ce qui concerne le rôle des médias dans le fonctionnement de la démocratie en général, c'est qu'en fait, on a des Français qui attendent que les journalistes fassent du bon travail.
Ça me fait plaisir. Je souris. Ils attendent que les médias débunkent les fausses informations diffusées par les candidats et les pointent du doigt, ce qui sous-entend que les Français partent du principe que les candidats diffusent des fake news.
Oui, ben je pense que effectivement, on peut raisonnablement dire que dans un débat politique, dans une émission politique, un candidat en campagne et va quand même probablement, à un moment ou à un autre, dire au minimum une imprécision, une fake news, je ne sais pas, parce que l'intention n'est pas toujours mauvaise, mais des erreurs dans les débats politiques, dans les discours politiques, il y en a. Et effectivement, il est heureux que le public considère encore que c'est notre travail de remettre... les pendules à l'heure.
Alors, vous avez également soumis un certain nombre d'événements aux Français et vous leur avez demandé de classer ces événements selon qu'on en ait trop ou pas assez parlé dans la presse. Alors, de quoi avons-nous, nous, médias, trop parlé? Voici les gagnants.
La fin des restrictions liées au Covid se profile. Le Premier ministre Jean Castex vient de fixer un calendrier. Il commence par l'entrée en vigueur du pass vaccinal lundi prochain. Ensuite, le 2 février, les jauges de spectateurs dans les salles ou les stades seront supprimées.
Mes chers compatriotes,
la vidéo a été enregistrée il y a 2 semaines dans le plus grand secret. Éric Zemmour lit son texte, le ton grave. La mise en scène fait référence à l'appel du général de Gaulle en juin 1940.
Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver.
Ils ont déjà acheté leur maillot, floqué du numéro 30. Prochain objectif, voir Lionel Messi jouer au Parc des Princes. Ne leur parlez pas de prix. Quand on aime, on ne compte pas.
Nous serons prêts à mettre, je vais dire, une fourchette, aller au moins jusqu'à 1000 euros avec mon fils. Vraiment une histoire de famille parce qu'on est des fervents supporters du PSG.
Alors, le ressenti des Français et des Françaises, évidemment, la presse aurait trop parlé d'Éric Zemmour, trop parlé de la Covid et trop parlé de Messi au PSG. Est-ce que vous partagez ce classement, si j'ose dire?
Alors, pour ce qui est du Covid, il n'est pas très étonnant que les gens pensent qu'on en a trop parlé. Maintenant, est-ce que la lassitude concerne le traitement médiatique ou le Covid lui-même?
Et voilà. Qu'aurait-on dit si on en avait moins parlé?
Absolument. Et d'ailleurs, c'est toujours C'est un des paradoxes qu'on retrouve souvent dans ce baromètre et qu'on retrouve encore aujourd'hui. Ça s'est manifeste sur la candidature d'Éric Zemmour. Les sondés classent parmi les sujets trop traités des sujets qui, par définition, ont fait beaucoup d'audience. Je pense qu'il y a un effet de jugement rétrospectif, mais il est vrai que sur le moment, c'est aussi le Covid, si on en a beaucoup parlé, c'est aussi parce qu'il y avait une demande du public d'être forcément informé sur ce sujet. Et puis l'actualité était là et effectivement cette épidémie a pris beaucoup de place. Est-ce qu'on en a trop parlé? Je ne sais pas si on en a trop parlé ou si simplement elle était trop présente.
Voilà, je me souviens de cette chanson de Dutronc, on nous cache tout, on nous dit rien. Un chiffre et une évolution très importante, vous posez la question aux Français, sur Internet, quelle est votre principale source d'information? Et là, c'est très intéressant parce qu'il y a un inversement des courbes assez spectaculaire. Sur Internet, les réseaux sociaux deviennent la première source d'information avec 26%, plus 6 points. Et ils devancent donc les sites et les applis d'information, si j'ose dire, officielles, qui tombent à 21%, moins 8 points. Comment expliquez-vous ces chiffres?
Les réseaux sociaux, c'est gratuit, pour commencer. C'est gratuit, mélange dans quand on fréquente un réseau social, l'information en fait se mélange avec tout le reste des contenus, voilà, que ce soit les amis qu'on suit, les stars, les contenus plus loisirs. Donc en fait, une des explications pour moi est que quand on vous demande comment vous vous informez, il faut bien répondre quelque chose, et que la réalité souvent c'est que on ne va pas sur un réseau social pour s'informer. En revanche, il se trouve qu'effectivement, on y voit des informations et que donc, quand la question est posée, eh bien, le réseau social devient, une source d'information. Mais il y a effectivement cet aspect de gratuité. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai blocage, notamment chez les jeunes, avec le modèle du payant pour l'information écrite, en tout cas.
Voilà, et je précise que Europe1.fr, c'est gratuit. Merci beaucoup, Gauthier Vaillant. 35e baromètre sur la confiance des Français envers les médias. C'est à retrouver dans le journal La Croix, qui est en kiosque aujourd'hui. On peut aussi s'abonner. Merci beaucoup. Dans un instant, nous serons avec le professeur de criminologie, Alain Bauer. Il intervient dans l'émission Au bout de l'enquête de France 2, consacrée au cold case. Cette fois-ci, le prochain numéro consacré à l'affaire du Grêlé. C'est ce tueur en série identifié 35 ans après, il a commencé en gros en même temps que le baromètre La Croix, mais ça n'a aucun rapport, évidemment. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Alain Bauer.
Bonjour.
Vous êtes criminologue, professeur de criminologie, consultant en sécurité. Vous êtes notamment conseiller Nicolas Sarkozy, également Manuel Valls. Vous êtes l'auteur de nombreux livres. Je vais citer en décembre l'Encyclopédie des espions et des espionnes. Votre actualité à la télévision, c'est depuis février 2021. Vous participez à cette nouvelle émission de France 2 consacrée au crime et plus particulièrement au cold case. Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait, c'est le titre. C'est le samedi à 14h. C'est présenté par Marie Drucker. Et vous êtes, Alain Bauer, l'expert de l'émission. En tant que prof de criminologie, vous revenez sur les affaires, plus précisément sur la manière dont a été traitée l'enquête. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette émission? Pourquoi avoir accepté ce rôle?
Alors d'abord, ce n'est pas une émission de mise en scène, ce n'est pas une émission de clash, ce n'est pas une émission avec une musique qui fait peur, des courses-poursuites dans tous les sens. C'est une émission pédagogique. C'est la capacité à analyser une histoire d'une affaire criminelle compliquée, résolu ou pas résolu, il y a les deux cas de figure. C'est pas seulement du cold case, c'est parfois du cold case qui, à la fin, se termine entre guillemets bien.
En l'occurrence, dans celle du Grêlé, on va l'entendre. Vous avez raison.
Et puis, c'est un élément où on construit l'histoire avec Stéphane Martin et Marie Drucker. On n'est pas seulement des présentateurs ou des éclaireurs. Il y a un travail collaboratif de construction de l'histoire. Ensuite, il y a un travail de mise en image, qui n'est pas du tout mon métier, et qui est remarquablement fait par les différents auteurs, pour que tout amène le téléspectateur à se construire lui-même, son analyse, son opinion. On l'éclaire, mais on n'essaie pas de le mettre en condition. Voilà. Et ça m'a beaucoup intéressé par le côté vraiment de pédagogie, de transmission, et surtout d'éclairage sur les techniques, les méthodes, l'histoire. On y apprend des choses. Moi-même, je réapprends des choses, donc je profite de ce côté-là. C'est ça qui m'a amené à accepter la proposition qui m'a été faite par Stéphane Sidbon, le patron de France Télé, quand il a eu cette idée de remettre en ligne un magazine de faits divers.
Alors nous aussi, on apprend des choses. On va parler du dossier de samedi prochain, ce sera le 29, c'est le Grêlé. Vous avez en partie écrit l'épisode, donc vous connaissez bien l'histoire. On vient de connaître le dénouement de cette affaire du Grêlé après 35 ans, après son premier méfait. Qui était-il d'un mot?
Alors, c'est un policier devenu gendarme qui, durant un laps de temps très long, entre 1983 et quasiment 30 ans plus tard, a agressé, violé des enfants et des adultes, tué aussi, donc c'est un serial killer un peu particulier, et qui avait réussi à masquer son identité jusqu'à ce que la détermination des enquêteurs, enfin, permettent non pas de l'identifier, mais de le convoquer pour une identification, et c'est le moment où il s'est suicidé.
On va en parler. Entre 86 et 94, notamment, il est soupçonné d'avoir commis 4 meurtres et au moins 6 viols. Les enquêteurs le surnomment le Grêlé en raison d'un portrait robot qu'il présentait avec de l'acné. Et alors, ça commence par un premier crime. C'est une petite fille qui a été violée dans la cave de son immeuble et tuée par quelqu'un qui avait passé longtemps ce jour-là dans l'immeuble, qui a salué nombre de voisins. On a donc son portrait robot. L'affaire semble pour les policiers facile à résoudre. Et là, c'est votre première intervention à la Bauer. Vous racontez l'histoire du portrait robot, l'histoire en général du portrait robot. Et j'avoue que j'étais stupéfait.
Alors, c'est une histoire qui commence en fait en 1880 à Scotland Yard. Mais le grand moment, c'est 1952-53, quand M. Dambron...
On est en France.
En étape, à Étaples-sur-Mer, pour amuser ses enfants, découpe des magazines pour reconstituer des personnages pour ses enfants, puis photographie des voisins et des gens de la ville pour que les enfants reconstituent le visage. Et il va obtenir une médaille de bronze au concours Lépine. Et ceci va beaucoup intéresser le ministère de l'Intérieur, qui jusqu'à présent avait plutôt des portraitistes, des gens qui vous écoutaient en disant « Alors, Frédéric, il est comment, M. Vandel ?» Alors, écoutez, il est comme ci, comme ça, il a des cheveux, il n'en a pas, il est grand, il est gros, il est petit, il est mince. Et il y a un problème avec le témoignage humain, c'est qu'on se rappelle ce qu'on veut bien se rappeler. Par contre, quand on visualise quelque chose, on devient plus précis, plus déterminé, et c'est ce qui a permis d'avoir le portrait-robot qui ensuite va être récupéré par le FBI.
En 68.
C'est une des rares inventions françaises qui ont été récupérées par les Américains. Alors à l'époque, c'était avec des tableaux où on mettait des éléments horizontaux qui rentraient dans des cases, puis on prenait tous les éléments possibles, et puis ça s'est évidemment numérisé et amélioré au fur et à mesure. Mais oui, c'est l'origine moderne du bertillonnage moderne.
C'est le jeu d'un papa pour ses enfants.
Exactement.
Qui se termine au FBI. Vous l'avez dit, il y a un miracle qui s'est produit en 2021. On pensait ne jamais trouver de réponse depuis 2001 sur l'identité du Grêlé. Tout ça grâce à cette nouvelle juge qui reprend le dossier. On est en 2014. Elle s'appelle Nathalie Turquet. Elle est nommée en charge de l'affaire. Elle reprend tout à zéro. Et elle s'aperçoit, parce que le type allait très souvent en brandissant soit une carte de police, soit une carte dans gendarmerie. Vrai ou fausse, on ne le sait pas. En tout cas, elle s'aperçoit, Nathalie Turquet, que très peu de recherches ont été faites du côté des gendarmeries parisiennes, alors que le coupable montrait une carte de police. Elle oriente donc son enquête en cette direction.
Elle va regarder où ont été commis les faits, les meurtres en question dans Paris, et elle va dire, il y avait des gendarmes qui étaient logés à l'époque dans des casernes à Paris, eh bien je veux la liste des gendarmes qui ont de tel âge à ce moment-là, dans les années 80, début des années 90. Et elle va avoir un listing avec 700 noms qui vont sortir et elle va dire, je veux 700 prélèvements ADN. C'est un peu un pari. Et elle va aller demander à chaque commissariat, à chaque gendarmerie de l'endroit où habitent ces gens-là, de les prélever pour comparer l'ADN à celui du Grêlé.
Dans la liste, il y a ce fameux François Vérov qui est contacté le 24 septembre en vue d'une vérification d'identité et donc de prélèvement ADN.
Donc il s'est préparé, puisque j'ai appris par la suite qu'il avait vidé tous ses comptes, mais il a pu également effacer toute pièce en rapport avec son passé criminel.
Clairement, il sait qu'il est foutu. Et là, je pense qu'il va cheminer pendant 24, 48 heures et il va décider de se suicider au Gros du Roi.
Il y a un environnement quand même, un contexte, un faux policier ou un faux gendarme. Comment se fait-il qu'on n'ait pas passé au crible tous les policiers, tous les gendarmes? Pourquoi cette lacune de l'enquête, Alain Bauer?
Pas d'abord, ça n'aurait pas servi à grand-chose, puisque l'ADN, on n'aurait pas pu le retrouver. Il faut aussi considérer les évolutions criminologiques et criminalistiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas de base d'ADN. Mmh. La base d'ADN, elle va commencer à apparaître avec SK1, grâce à la commissaire Monteil, qui pour la première fois va permettre de créer un fichier national des empreintes génétiques qui n'existe pas.
Là, on est en quelle année?
Là, on est dans les années 84 ans ou 5 ans plus tard. Le fichier national, c'est presque 10 ans plus tard.
Ouais.
Donc, c'est un processus très lent. À l'époque, on ne prend pas l'habitude non plus d'avoir les séquences des policiers et des gendarmes en charge de l'enquête, ce qui n'aurait pas non plus permis pour éviter ce qu'on appelle la pollution des scènes de crime, ce qui est un sujet. On ne savait pas comment ne pas polluer une scène de crime. Donc, il faut considérer qu'on est dans la préhistoire de la criminalistique
moderne.
Mais donc,
moderne. Ce n'est pas... Le sens de ma question, c'était est-ce que c'est un aveuglement de la police ou de la gendarmerie qui ne veut pas faire l'enquête sur ses propres troupes ?
Ça aurait été une bonne idée de le faire. Et d'ailleurs, ils le font. Mais... ça n'aurait pas servi à grand-chose, d'abord parce qu'une fausse carte de police, à l'époque, elles étaient aussi falsifiables que les fausses cartes d'identité ou les faux permis de conduire en papier. Mmh. Voilà, ce n'était pas une activité très compliquée. Mais surtout, la modernisation des outils permet des découvertes qui n'auraient pas pu avoir lieu à l'époque. Et puis, dans une enquête, vous avez des centaines de pistes, des milliers d'options. Et je précise d'ailleurs que c'était le deuxième crime, pas le premier. Le premier, c'est un viol sans meurtre. Là, c'est le deuxième cas. C'est un viol avec meurtre de la jeune fille, de la petite fille.
Vous avez raison, il faut être extrêmement précis, surtout le jour de la parution du baromètre Lacroix envers, sur la confiance envers les médias. Alain Bauer reste avec nous. Culture Média continue, on a encore plein de choses à dire sur le grêlé.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Alain Bauer, professeur de criminologie, il intervient à ce titre dans l'émission présentée par Marie Drucker. C'est sur France 2, Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait. C'est le samedi à 14h. On parle de l'émission du numéro qui va passer samedi 29 en 8 à 14h. C'est l'affaire du grêlé, ce tueur en série qui a été découvert, dont l'identité a été découverte avec son suicide seulement en septembre dernier. 35 ans de méfaits auparavant. Les premiers actes du meurtrier remontent à 86. À l'époque, on n'utilisait pas l'ADN, ça n'existait pas. La police a fini par l'utiliser. Et vous dites qu'il y avait de la réticence à utiliser en France la technique de l'ADN. Réticence de qui et pour quelle raison ?
Alors, il y avait une réticence à faire un fichier national. L'ADN, on ne savait pas bien ce que c'était, mais créer un fichier national. Parce que l'ADN ne sert que si on peut le comparer à quelque chose.
Oui, c'est toi ou c'est pas toi.
C'est toi ou c'est pas toi. Et pour avoir ça, il faut donc un fichier de base de référence. C'est comme le numéro national d'identification que vous avez, parce que vous êtes votre année de naissance, etc. Il faut une base, autrement
bien
ça ne
sûr
sert à rien.
Évidemment.
Une carte d'identité, il faut pouvoir la comparer à l'émetteur de la carte d'identité. Tout ça n'existait pas. Donc l'idée d'avoir un fichier national des empreintes génétiques a posé un problème absolument majeur à la société française, parce qu'elle avait peur du fichier. Le fichier fait peur. Il y avait eu une tentative en 1976 qui s'appelait Safari, un fichier national interconnecté qui permettait de relier les impôts, l'état civil, etc., qui avait créé une révolte de la société et permis la création de la CNIL, la Commission Informatique et Liberté. Là, le même problème s'est posé. On dit, attention, qui on va mettre dedans ? Si ce ne sont que les gens déjà connus, bon, ça permet de savoir qu'ils ont déjà été condamnés. S'ils ont été condamnés. Non, il fallait mettre aussi les suspects. Ah oui, mais ils ne sont pas condamnés. Oui, mais... est-ce qu'on pourrait mettre une base élargie, par exemple, tous les policiers et les gendarmes qui interviennent sur les scènes de crime pour éviter la pollution ? Ouh là 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 là, vous élargissez énormément, et tout ça a ramené à l'occupation. C'est-à-dire, vous allez créer un fichier, alors pas un fichier juif, mais un fichier de suspects, la loi des suspects. C'était de très mauvais souvenirs, et il a été très compliqué de mettre en place le fichier des empreintes génétiques. Il a fallu de manière très restreinte. Dans un premier temps, c'était seulement des fichiers épars qu'on pouvait regrouper en fonction d'une affaire. Ce qu'on appelle les fichiers sériels, il a fallu que le Conseil constitutionnel s'y prenne à deux fois pour les autoriser uniquement pour les affaires très graves, dans des conditions très compliquées, avec des problèmes très complexes. Donc on sent bien que tout ça n'est pas arrivé tout seul, malgré la volonté des policiers et des gendarmes, découvrant les charmes de l'ADN. Attention, ça n'est pas... ce n'est pas un système magique. L'ADN, c'est un élément de l'enquête. Ça ne répond pas à tous les problèmes d'enquête parce que l'ADN peut être pollué, manipulé ou erroné.
On l'a bien vu dans toutes les affaires dont on parle souvent ici. Y a toutefois des zones d'ombre dans ce reportage qui revient pourtant sur les zones d'ombre. Par exemple, on découvre que le grêlé a possédé une Volvo blanche, comme l'ont indiqué plein de témoignages. Une Volvo blanche, modèle 740, je cite de mémoire, intérieur bleu. Tous les propriétaires de Volvo blanche sont passés au peigne fin, surveillés, je connais plus le vocabulaire exact. Comment se fait-il que lui soit passé entre les mailles du filet alors qu'il a une Volvo blanche avec un intérieur bleu ?
On ne sait pas. C'est les charmes des enquêtes, c'est que parfois ça merde. Et qu'on n'y arrive pas. Soit parce qu'il y a trop d'éléments, soit parce que quelqu'un s'est dit oh, c'est un flic, non, soit parce que quelqu'un n'a pas fait le machin, soit parce que la carte grise n'était peut-être pas à jour, parce qu'il faut se rappeler aussi qu'un bon fichier, c'est un fichier à jour. Et donc, bah oui, si, on ne sait pas s'il l'a acheté neuf, d'occasion, enfin vous voyez ce que je veux dire. Tous ces éléments-là sont ceux qui, un petit élément, créent les conditions d'un désastre. Michel Rocard, mon patron pendant longtemps, expliquait qu'en matière de grandes catastrophes, il a toujours privilégié la connerie au complot. Ça existe aussi en matière d'enquête.
Et voilà pourquoi il est si intéressant de voir cette émission pour ce genre d'analyse d'Alain Bauer. Autre lacune dans ce reportage, si je puis me permettre, même si ce n'est pas vous qui l'avez fait, mais c'est à vous que je vous pose la question parce que vous êtes en face de moi, et l'acné. Pourquoi ce surnom du grêlé? Il s'appelle le grêlé. On voit des images de lui, des photos de lui, des vidéos de lui. Il n'a pas de boutons, il n'est pas grêlé. Est-ce qu'on ne cherchait pas la mauvaise personne?
Alors, d'abord,
ou alors, est-ce qu'il s'est fait des faux boutons, pardon de dire les choses?
C'est possible qu'il ait été grimé, c'est possible qu'il ait eu une maladie juste là. Hein. On a tous des boutons qui apparaissent à des moments. Et puis, le témoignage humain, c'est le drame du témoignage humain. Si tout d'un coup, en sortant de ce studio, on sort une seconde, on revient, et je vous dis, décrivez-moi les gens qui sont dehors.
Moi, en plus, je suis prosopagnosique, je ne reconnais personne.
Non, mais comprenez ce que je veux
j'ai
dire.
J'ai bien compris.
Donc, maintenant, je fais l'inverse. C'est-à-dire, je prends 10 personnes dehors, et je leur dis, il y avait quelqu'un assis devant le studio, décrivez-le ou la moi. Et vous allez voir, ça va être très intéressant parce que nous avons tous des petits défauts de perception, les biais cognitifs, ça s'appelle. Je fais un cours sur les biais cognitifs parce que c'est très intéressant. Et dans les biais cognitifs, eh ben, il y a ça. Et le témoignage humain est extrêmement friable.
Merci beaucoup Alain Bauer. Je rappelle, au bout de l'enquête, la fin du crime parfait, c'est l'affaire du grêlé. Ça sera samedi 29 à 14h.
En deux épisodes.
Et puis, je vais citer La criminologie pour les nuls. C'est votre livre qui vient d'être réédité. C'est évidemment chez First, dans la fameuse collection Pour les nuls. Merci d'avoir été avec nous en direct, Alain Bauer. Culture Média continue. Il y aura les infos de 10h et puis les télescopages de Bruno Donnet. Il a regardé le 20h de TF1 et me dit-il, il a beaucoup progressé en calcul mental. Nos invités, ce sont les deux jeunes sœurs musiciennes Camille et Julie Berthollet. Leur nouvel album s'appelle Série. Elles jouent, c'est quoi? Des génériques de série. Et puis dans les indispensables de la BD et puis de la gastronomie, Laurent Mariotte profite de la venue des sœurs Berthollet pour nous parler de sœurs. Ça se trouve, il va nous inviter les sœurs Tatin. L'humoriste imitateur Marc-Antoine Lebrun en fin d'émission. A tout de suite.